en étant mieux discipliné, mais au contraire directement lié notre délivrance de la loi, notre délivrance du péché est directement lié à notre délivrance de la loi, pardon, à travers le sacrifice de Jésus. Je vous propose d'abord de lire les 6 premiers versets du chapitre 7 de Romains. Romains 7, versets 1 à 6. On va découper ce texte, ce chapitre, en trois parties. Paul qui écrit et qui dit donc « Ne savez-vous pas, frères, car je parle... » Pardon, je n'ai pas la bonne version. « Ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la lie à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme, du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères et sœurs, vous aussi vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité afin que nous portions des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés dans la chair, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Dans cette première partie, Paul nous explique que notre péché n'est plus condamné par la loi. Ricardo l'a bien expliqué déjà lors de la scène à travers Michée 7. On dit que la pédagogie est une répétition et on va répéter des choses par rapport à ce que Ricardo a dit, mais je pense que Dieu veut nous les redire peut-être particulièrement ce matin. Notre péché n'est plus condamné par la loi. Au début de ce chapitre, Paul souligne ce qu'il pense être une évidence. La loi n'a d'autorité sur l'homme que de son vivant. La loi n'a rien à dire à un mort. Quelle que soit la gravité des fautes d'un criminel, une fois mort, il n'est soumis à aucune condamnation. Si je vous demande combien de péchés commet un mort, que me répondriez-vous? Combien? Pardon? Deux, trois? Zéro? Aucun. Un péché, un mort ne peut commettre aucun péché. Et pour illustrer ce qu'il dit, Paul prend l'exemple au verset 2 d'une femme mariée qui devient veuve. Tant que son mari est vivant, elle est liée à lui, elle lui doit la fidélité, elle doit lui être fidèle. Mais si son mari décède, ce n'est plus vrai. Des fois que vous posez la question, c'est la même chose pour l'homme. Hein. Lui aussi doit la fidélité à sa femme tant qu'elle est vivante, bien sûr. Voilà d'autres manières d'illustrer cette même idée. Pour les footeux, Coupe du Monde oblige, j'ai pas pu m'empêcher. Lors de son dernier match de Coupe du Monde, en finale, Zidane a reçu un carton rouge. Mais c'était son dernier match. Un joueur qui reçoit un carton rouge, normalement, se voit infliger des matchs de suspension. Il n'a pas le droit de jouer par la suite. Mais Zidane était, pour ainsi dire, comme mort au foot. Donc, il a reçu son carton rouge, il a dû sortir du terrain, mais il n'y avait pas de conséquences par la suite, pas de match de suspension, puisqu'il ne jouait plus au foot. C'était fini pour lui. Un autre exemple, plus historique, un peu plus morbide aussi. Le réformateur protestant Martin Bucer a eu l'honneur de grandes funérailles à sa mort en Angleterre en 1551. Mais 5 ans plus tard, suite à l'accession au trône de la reine catholique Marie Tudor, son corps a été déterré et brûlé publiquement comme hérétique. Cela n'avait aucune conséquence pour lui. Il n'a pas souffert, il n'a pas eu mal. Pourquoi? Il était mort. Aucune conséquence. Tout cela pour bien souligner, et Paul veut le souligner clairement, que la mort du chrétien avec Christ annule complètement le pouvoir de la loi sur lui. Il le dit au verset 4. « De même, mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi à travers le corps de Christ. » La loi n'a plus aucun impact sur un mort en Christ. À la croix, Christ a subi la peine de mort que la loi exigeait. La loi exigeait la mort. Nous n'avons donc plus rien à payer, mais nous sommes passés d'une autorité à une autre, nous dit le texte. Nous sommes passés de l'autorité de la loi à un autre, à celui qui est ressuscité, à l'autorité de Christ. Nous sommes passés de l'autorité de la loi à l'autorité de Christ aujourd'hui en tant que chrétiens. Et c'est ainsi, parce que nous sommes morts à la loi, et maintenant plus sous son autorité, mais sous l'autorité de Christ, que le texte nous dit que nous pouvons porter des fruits pour Dieu. Et ces fruits, c'est lesquels? C'est bien sûr, entre autres, Galates 5, 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Il y a aussi d'autres choses encore que la Bible nous donne. Dans les deux versets suivants, les versets 5 et 6, Paul nous réexplique encore une fois, il veut vraiment qu'on comprenne bien la chose. Il nous explique que nous sommes passés d'un état à un autre. Nous étions sous la loi, nous sommes sous la grâce maintenant, sous Jésus-Christ. Avant notre conversion, nous étions esclaves de la loi et nous portions des fruits de la mort, verset 5. Avant notre conversion, nous étions dans la chair, nous dit le texte. Être dans la chair, c'est le contraire d'être en Christ. En tant que croyant, nous pouvons manifester certaines actions de la chair, certains actes de la chair. Mais on ne peut pas être dans la chair, comme on le verra par la suite. Mis face à la loi, la chair est stimulée par les restrictions qu'elle lui impose. Et elle le pousse à vouloir faire ce qui est justement interdit par la loi. C'est le sens du verset 5 quand il dit, quand Paul écrit, « Les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres. » Ce n'est pas que la loi est à l'origine de ces péchés, mais c'est que confronté à la loi, confronté aux interdictions, notre chair, notre péché nous pousse vers ces interdictions, à franchir l'interdiction. Tout homme est fondamentalement pécheur et au fond de lui-même, il a l'attrait de l'interdit. Vous ne vous souvenez pas quand vous étiez gamin, est-ce que les bonbons qu'on chapardait dans le placard n'avaient pas un meilleur goût que ceux qu'on nous permettait de prendre ? Malheureusement, par la suite, c'est pareil en tant qu'adulte. Proverbe 9, verset 17 résume bien cet attrait pour l'interdit. Les eaux dérobées sont plus douces et le pain mangé en secret est savoureux. L'homme, par nature, a l'attrait de l'interdit. L'homme, par nature, confronté à la loi, confronté à l'interdit, veut passer outre cette loi. Et les fruits de cet état sont les œuvres de la chair, nous dit le texte. Galates 5, versets 19 à 21, en résume quelques-unes. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies. Et la liste est loin d'être finie. Toutes ces passions nous entraînent vers où ? La mort. En fait, toutes nos œuvres, même celles qu'on pourrait considérer comme « bien », entre guillemets, nous entraînent vers la mort. Parce que le problème, ce n'est pas les œuvres qu'on peut faire, comme on va le voir par la suite. Après la conversion, verset 6, nous sommes maintenant libérés de la loi et nous servons par l'esprit. Et ça change tout. Nous sommes libérés de la loi à notre conversion. Pourquoi ? On l'a déjà vu avant. Parce que Christ est mort à la croix comme notre représentant. Donc à travers sa mort, nous sommes nous aussi morts vis-à-vis de la loi. Ça ne veut pas dire que nous sommes libres de faire tout ce qu'on veut et tout ce qui est interdit par la loi. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que nous sommes libérés de la condamnation de la loi. La loi exigeait la mort. Nous sommes libérés de la mort. Nous ne sommes pas libérés du fait de pouvoir faire ce qu'on veut maintenant. Jésus l'a clairement dit lors du sermon sur la montagne, qu'il n'était pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Matthieu 5, verset 17. En mourant à notre place, Christ nous a fait mourir à l'exigence de l'obéissance à la loi pour être juste aux yeux de Dieu. Nous n'avons plus à respecter la loi pour être juste aux yeux de Dieu. Nous sommes justes aux yeux de Dieu en vertu du sacrifice de Christ. Nous sommes morts à la loi en vertu du sacrifice de Christ. Notre statut vis-à-vis de Dieu ne dépend pas de notre respect de la loi. Et comme le dit un commentateur, ma dette ne saurait être réclamée deux fois par Dieu. Une fois au Fils, à Christ, et une autre fois à moi. Dieu ne réclame qu'une seule fois cette dette. Et cette dette, il l'a réclamée à son Fils. Grâce à notre libération de la loi, nous sommes maintenant rendus capables de servir Dieu avec un nouvel esprit. Comme il est dit, nous servons sous le régime nouveau de l'esprit. C'est-à-dire avec le désir, avec la capacité de respecter la loi de Dieu. On va y revenir. Ce n'est plus une quelconque crainte qui nous pousse à vouloir obéir à la loi. Mais c'est l'amour qui motive maintenant notre service pour Dieu. Parce que nous sommes transformés, nous sommes changés. Dans cette première partie, Paul n'est pas en train de dire que la loi est morte. Au contraire, elle exerce toujours un rôle capital en produisant une conviction de péché, comme on va le voir dans ce deuxième section de Romains 7. Je vous propose de lire maintenant Romains 7, versets 7 à 12. Que dirions-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit « tu ne convoiteras pas ». Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. En effet, sans loi, le péché est mort. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi je suis mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion offerte par le commandement, m'a trompé, et par lui m'a donné la mort. Ainsi donc la loi est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Donc après avoir expliqué dans les premiers versets que notre péché n'est plus condamné par la loi, Paul a peur qu'on ait une méprise et qu'on croit qu'il critique la loi, qu'on croit que la loi est mauvaise en elle-même. Et il s'empresse d'expliquer que la loi n'est pas mauvaise en elle-même, mais qu'elle révèle la norme divine. Et nous permet à nous, aujourd'hui, d'identifier notre péché. Confrontés à la loi divine, nous pouvons mieux identifier notre péché. La loi est là pour montrer du doigt mon péché dans ma vie. Elle est là pour que je ne reste pas sans savoir s'il y a un péché ou pas. La loi est là pour me pointer du doigt le péché qui règne dans ma vie parfois. Elle sert de révélateur. Quand on développe soi-même ses photos, je ne sais pas s'il y en a encore qui le font aujourd'hui, c'est un peu avec les numériques et tout, ça a bien changé. On place les négatifs dans un bain de produits chimiques, comme vous pouvez le voir un peu là, qui s'appelle un révélateur et qui fait apparaître les clichés petit à petit. Et la loi fonctionne de la même manière. Elle sert de révélateur du péché. Elle n'est pas la source du péché, mais elle révèle le péché. Elle le met en lumière dans nos vies. Et par la suite, Paul va témoigner du rôle important que la loi a eu sur sa propre vie. Parce que la loi a révélé à Paul son péché. Elle l'a convaincu de sa situation de péché. C'est ce qu'il explique au verset 8 et 9. Verset 9, « Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois. Mais quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi je suis mort. » Ce qu'il dit, c'est qu'avant sa conversion, le péché s'appuyait sur la loi. John MacArthur écrit à ce propos, « Face à la loi divine, la nature rebelle du pécheur trouve la chose interdite plus attractive. Non pas parce qu'elle est attractive en elle-même, mais parce qu'elle donne l'occasion d'imposer sa propre volonté. » Face à la loi de Dieu, ce n'est pas forcément le fait qu'elle soit attractive qui me pousse au péché, mais c'est le fait aussi de montrer mon indépendance vis-à-vis de Dieu. C'est le fait de montrer que « Dieu, tu me dis ça ? Je m'en fous. C'est moi qui décide. » Autrement dit, le péché s'appuie sur la loi dans le sens qu'enfreindre la loi devient un exécutoire. On enfreint la loi pour montrer notre indépendance vis-à-vis de Dieu, pour montrer qu'on sait gérer tout seul notre vie. Une autre chose que Paul voit dans sa vie avant sa conversion, c'est que le péché était peut-être moins flagrant. Il dit, au verset 8, « Sans loi, le péché est mort. » Sans loi, le péché est mort. Cela signifie que le péché est latent et devient pleinement actif à travers la loi. Avant d'être convaincu de péché par la loi, Paul ne soupçonnait pas à quel point il était pécheur, la noirceur de son péché. Et parfois, quand on discute avec des personnes, peut-être collègues, voisins, qu'on discute de la foi, on se rend compte que pour certains, je n'ai pas de problème, je n'ai pas de péché, je n'ai rien. Peut-être parce qu'il n'y a pas cette confrontation à la loi avant la conversion. On y reviendra encore aussi après. Mais quand Paul a commencé à comprendre les véritables exigences de la loi morale de Dieu, avant sa conversion, il a pris conscience de sa déchéance morale et a réalisé qu'en fait, il était tout simplement mort. Au verset 9, « Je suis mort. » Son état de pécheur révélé par la loi l'a fait mourir, dans le sens que cela ruinait pour lui, le pharisien zélé pour la loi, tout espoir de gagner son salut par ses actes. Parce que confronté à cette loi divine, il s'est rendu compte qu'à un moment donné, malgré toute ses disciplines, malgré tout son combat, malgré son zèle pour la loi, rien, il ne pouvait pas accomplir toute cette loi. Il était face à quelque chose qu'il ne pouvait pas faire. Et donc, ça tuait en lui tout espoir de gagner le salut par ses propres forces. Même si la loi conduit l'homme à la mort plutôt qu'à la vie, cela ne signifie pas, qu'elle est mauvaise. Et au contraire, la loi est définie par Paul au verset 12 comme sainte. Elle reflète le caractère de Dieu. Elle montre le standard de sainteté de Dieu. Juste, elle est conforme au sens moral et bonne. Elle nous montre la volonté de Dieu et éclaire notre péché. La loi est bonne, mais nous sommes sous l'emprise du péché, qui la rend mauvaise pour nous. Pour vous donner une image, le soleil est bon en tant que tel. C'est bon de prendre le soleil, sauf si vous avez une peau un peu blanche comme la mienne, où ça peut être plus compliqué. Je précise tout de suite, c'est pas moi sur la photo. Quand on prend des antibiotiques, par contre, certains antibiotiques, on peut nous conseiller de ne pas prendre le soleil, parce qu'il peut y avoir des effets secondaires. Je ne sais pas si c'est un effet secondaire dû à des antibiotiques ou c'est surtout un défi pour cette personne. Mais en tout cas, le soleil qui est bon, à la base, peut être mauvais, parce qu'on est sous l'influence d'antibiotiques. Et c'est un peu la même image avec la loi. La loi est bonne, mais parce qu'on est sous l'influence du péché, parce qu'on est sous l'influence de la chair, elle devient morte pour moi. Elle est mortelle pour moi. Ce n'est donc pas dans la loi qu'il faut chercher le résultat de nos mauvais comportements. La loi n'est pas la source du péché, mais son révélateur. Elle est là pour nous révéler à quel point, sans Christ, nous sommes incapables de plaire à Dieu et nous conduire à lui. Galates 3, verset 24 l'affirme, « La loi était comme un pédagogue chargé de nous conduire au Christ pour que nous soyons déclarés justes devant Dieu par la foi. » La loi est ce pédagogue qui nous conduit vers Christ. Confronté à la loi, je me rends compte de mon péché et je me rends compte que je dois me tourner vers quelqu'un d'autre. La loi est bonne en elle-même, mais elle a été donnée à des hommes mauvais qui ont besoin pour se rendre compte de leur péché, mais qui ont besoin d'autre chose pour être délivrés du péché. La loi vous dit ce que vous devez faire, mais elle ne vous aide pas à le faire. Elle vous dit ce que vous devez faire, mais elle ne vous aide pas à le faire. C'est ce que Paul développe dans le dernier paragraphe de ce chapitre 7 de Romains, du verset 13 au verset 25. Poursuit notre lecture. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi ? Loin de là. Au contraire, c'est la faute du péché. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et ainsi par intermédiaire du commandement. Il montre son caractère extrêmement mauvais. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Et là, il va falloir bien suivre. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui a ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Grâce soit rendue à Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par la chair, je suis esclave de la loi du péché. Paul pose une nouvelle question. La loi est-elle responsable de la perdition qui mène à la mort ? Puis répond avec vigueur, non. C'est le péché qui en est responsable. Et Paul explique ensuite qu'il y a un conflit entre la loi et le péché dans ma vie, dans nos vies. Alors avant d'aller plus loin, il faut savoir que cette dernière section de Romains 7 est l'un des textes les plus débattus et qui a été et qui est encore le sujet d'interminables discussions entre les théologiens évangéliques. La question est de savoir qui est l'homme décrit par Paul dans cette section. Est-ce que c'est un chrétien ou est-ce que c'est un non-chrétien ? Certains avancent une troisième option en affirmant que c'est un chrétien charnel. Alors ce serait trop long d'expliquer les arguments des uns et des autres pour donner leur position. Il y a des arguments forts de chaque côté. Mais il me semble qu'on peut tout de même retenir une idée forte de ce texte sans devoir se positionner de manière très ferme sur la question de savoir s'il s'agit d'un chrétien ou d'un non-chrétien. Parce que même si tous les commentateurs ne s'accordent pas toujours pour dire si Paul se réfère à son expérience avant ou après sa conversion, ils reconnaissent tous qu'il décrit de manière vivante la lutte qui fait rage dans nos cœurs, la lutte entre la loi et le péché qui fait rage dans nos cœurs, que nous soyons chrétiens ou non-chrétiens. Oui, Paul fait le constat qu'un conflit fait rage en lui. Un conflit entre la chair marquée par le péché et son désir de faire la volonté de Dieu. dans le respect de la loi. C'est comme si on était en face d'une double personnalité, comme le Dr Jekyll et Mr Hyde. Je ne sais pas si vous connaissez Dr Jekyll, c'est une histoire, il y a eu quelques films. Dr Jekyll est un bon docteur qui soigne les patients gentiment et tout, et parfois, sous différents problèmes, il se transforme en Mr Hyde, un tueur, un méchant. Un peu une double personnalité qui serait en nous, bon et mauvaise. Et l'une de ces personnalités est hostile à la loi de Dieu et refuse de se soumettre à lui, tandis que la nouvelle est toujours prête à faire la volonté de Dieu et à vivre selon sa loi. Comme l'écrit Ralph Chalice à propos de ce passage, il y a en quelque sorte deux pôles. On peut relire ce passage en faisant une distinction entre l'ancien, Saul, l'homme naturel avant sa conversion, et le nouveau, Paul, l'homme qui s'est converti sur le chemin de Damas. Ces deux personnalités se retrouvent liées. Paul dit « je », mais il pense tantôt à Paul, converti, et tantôt à Saul, qui était inconverti, qui ne connaissait pas Dieu. On peut lire les versets 19 à 20 ainsi, au lieu des « je », pour mettre plus en image. « Saul ne fait pas ce que Paul veut, et Saul fait ce que Paul déteste. Or, si Saul fait ce que Paul ne veut pas, Paul reconnaît par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus Paul qui agit ainsi, mais le péché qui habite en Saul. » Nous retrouvons donc face à face deux natures différentes qui font des choses inverses. D'un côté, nous avons Mr Hyde, ou Saul, qui, d'après ce texte, est vendu au péché, verset 14, habité par le péché, verset 17 et 20, fait le mal, verset 19, lutte contre la loi, verset 23, est prisonnier de la loi du péché, verset 23 aussi, est esclave de la loi du péché, verset 25. Cette nature, qu'on appelle aussi la chair, est la tendance naturelle en chacun d'entre nous d'agir indépendamment de Dieu et de centrer nos pensées non sur Dieu, mais sur moi, sur nous. La Bible affirme que cette nature est irrécupérable. Elle ne peut pas être améliorée. Elle ne peut pas être transformée. Elle est mauvaise. Et il faut remarquer qu'il y a une différence entre le fait d'être sous l'emprise de la chair et de vivre selon la chair. Le chrétien n'est plus sous l'emprise de la chair. On l'a vu avant, il est sous l'emprise de qui ? De Christ. Plus sous l'emprise de la chair. Par contre, nous pouvons encore choisir d'expérimenter, de vivre selon la chair. Mais nous ne sommes plus sous l'emprise de la chair en tant que chrétiens. Et de l'autre côté, il y a le docteur Jekyll, ou Paul, qui, d'après ce texte encore, verset 16, reconnaît que la loi est bonne, a la volonté de faire le bien, verset 18, prend plaisir à la loi de Dieu, verset 22, est esclave de la loi de Dieu, verset 25. Cette nouvelle nature n'approuve plus le péché qui réside encore dans sa chair et est tout simplement incapable de pécher. Comme l'affirme 1 Jean 3, verset 9, qui dit « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » Il ne pêche plus, dans le sens que son rapport au péché a changé à travers Christ. On va le voir. Donc après avoir fait ce constat terrible, de se rendre compte qu'il y a ces deux natures en lui, Paul ascrit désespoir au verset 24. « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Un peu à l'image de ce cri d'Ésaïe que John nous a relu là, dans Ésaïe 6. « Malheureux que je suis perdu. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Dans ce verset, le verbe « délivrer » signifie littéralement être arraché au danger. C'est un peu à l'image d'un soldat qui arrache un compagnon, un camarade blessé sur un champ de bataille. Et le corps de mort, délivrance du corps de mort, ce corps de mort fait référence à la partie non rachetée du croyant, à la chair. Paul aspire à être délivré de cette chair, coupable, mais il fait le constat qu'aucune délivrance n'est possible en lui-même. Il n'est pas capable de se délivrer de cette chair. Il n'y arrive pas, malgré toute sa discipline, malgré tout le respect qu'il a pour la loi, il n'y arrive pas. Paul reconnaît tout simplement son incapacité à être délivré de cet esclavage. Incapable. La tension est-elle donc inévitable ? Y aura-t-il toujours ce conflit intérieur en moi ? La victoire ne viendra-t-elle jamais ? Heureusement, le verset 24 se poursuit par le verset 25 et par le chapitre 8 par la suite, où Paul dit précisément d'où vient le secours. Le secours ne vient pas de moi, le secours doit venir d'autre part. Et le secours vient de qui ? De Christ, bien sûr. Grâce soit rendue à Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. À chaque fois que nous sommes en lutte avec le péché dans nos propres vies aujourd'hui. Il nous faut comprendre qu'il y a une différence entre notre position devant Dieu et notre expérience de vie. Je m'explique. Si on prend Philippiens 3, je vous invite à le prendre dans vos Bibles, Philippiens 3. Hop. Au verset 12, Paul nous dit « Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. » Je n'ai pas atteint la perfection. Il fait le constat qu'il y a encore une vie de péché, qu'il y a encore des problèmes dans sa vie. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir pour essayer de saisir le prix. Et pourtant, juste après, quelques versets plus loin, au verset 15 du chapitre 3 de Philippiens, il dit « Nous tous qui sommes parfaits. » Je n'ai pas atteint la perfection, nous tous qui sommes parfaits. Comment comprendre ça? En l'espace de 3 versets. Il a perdu le sens des réalités, Paul? Bien sûr que non. Dans le verset 12, Paul fait référence à son expérience de vie. Il constate ses chutes. Il voit qu'il n'est pas toujours digne de Dieu dans sa propre vie. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue de courir. Et au verset 15, il ne fait pas référence à son expérience de vie, mais il fait référence à sa position devant Dieu. Il est saint, juste, parfait aux yeux de Dieu. Pourquoi? Pas parce qu'il a par ses œuvres, mais parce qu'il est mort à la loi à travers le sacrifice de Christ. Ma position, c'est que je suis saint, parfait devant Dieu. Mon expérience de vie, c'est que parfois je peux faire le constat que le péché, que je tombe et que le péché existe encore en moi. Pour encore mieux comprendre, voilà une image. Imaginons le cas d'un enfant livré à lui-même dans la rue, qu'une famille royale, émue de pitié, décide d'adopter. Sorti du bidonville, il est aussitôt transporté au château, lavé, changé, dès son arrivée. Il n'est plus mendiant, mais noble. Et cependant, pendant longtemps encore, il peut continuer à se conduire comme le misérable qu'il a été. Mais il n'est plus misérable, il est noble. Et c'est un peu la même chose pour nous. Nous sommes cet enfant qui est devenu noble. Dieu nous a retirés, Dieu nous a adoptés. Mais nous pouvons encore nous comporter, malgré le fait que nous sommes nobles aux yeux de Dieu, avec notre ancien penchant, et tomber, et chuter, et être le misérable. Mais nous, ça ne change rien à notre position devant Dieu. Le texte de Romains 7, vous l'avez vu, n'est pas forcément le plus simple. C'est un texte doctrinal. Mais je crois quand même qu'on peut en retirer des applications. Et sur ces applications, j'aimerais finir avec vous ce matin. J'ai vu 3 applications, il y en aura sans doute beaucoup d'autres. D'abord, une application par rapport à ma lourde responsabilité face au péché. Comme on l'a vu, l'un des principaux buts de la loi est de révéler le péché. Elle met le doigt sur notre péché. Je suis le premier et le seul responsable de mon péché, chacun individuellement. Je ne peux pas accuser la loi. Paul répète inlassablement dans ce texte que la loi est bonne. D'ailleurs, l'idée même de la loi sous-entend l'idée que je suis responsable de mes actes. Je ne peux pas accuser une tierce personne. Ce n'est pas la société, ma famille ou qui que ce soit d'autre qui me corrompt et me pousse au péché. Le péché habite au plus profond de moi. Je ne peux pas rejeter la faute sur une autre personne que moi, car c'est moi-même qui désobéis au commandement de Dieu. Je ne peux pas non plus accuser ma chair. Paul nous explique qu'il y a une force qui agit en nous, la chair, et nous tend vers le mal. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes innocents. Nous sommes tout de même responsables de nos actes. Nous ne pouvons pas nous disculper en pensant que c'est notre nature pécheresse qui agit. Mais moi, je suis saint. Dans ce chapitre, Paul nous explique l'origine du péché dans nos vies, en tant que chrétiens encore aujourd'hui. Mais ne l'excuse jamais. Il explique l'origine de notre comportement, mais ne l'excuse pas. Paul a compris qu'il était pécheur et qu'il était entièrement responsable de son péché. Est-ce que tu l'as bien compris toi aussi ? On croit souvent, à tort, qu'être chrétien, c'est d'abord être quelqu'un de bien, respectueux. Je crois que c'est une fausse chose. Je crois que d'abord être chrétien, c'est d'abord se rendre compte qu'on est misérable, qu'on est mauvais. Si tu n'as pas reconnu l'état misérable de ton cœur, je t'invite à y réfléchir sérieusement. Ça ne change rien que tu le reconnaisses ou pas. Tu es misérable, je suis misérable. Mais si je ne le reconnais pas, je ne pourrai pas me tourner vers Christ. Je ne pourrai pas chercher le secours autre part, parce que je croirai toujours que le secours est en moi. Un chrétien, c'est quelqu'un qui se rend compte de son cœur misérable et qui se tourne vers la croix, se tourne vers Christ après. C'est la première étape vers le salut, se rendre compte de la misère de son cœur. Deuxième application pour nous aujourd'hui, par rapport à mon rapport renouvelé vis-à-vis de la loi. Une fois que tu as reconnu la noirceur de ton cœur, ton péché, et que tu t'es repenti devant Dieu, tout change dans ta vie. Et trop souvent, en tant que chrétien, nous ne le réalisons pas suffisamment. Tout change, mais on ne le réalise pas. Nous ne voyons dans la loi, même en tant que chrétien, qu'une liste d'exigences que nous tentons tant bien que mal de respecter avec nos propres forces. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, d'essayer de suivre les exigences de la loi avec nos propres forces. Ce n'est pas ça. Et Paul l'explique abondamment dans le chapitre suivant, chapitre 8, que je vous invite à lire dans la semaine qui suit. Dans son livre « La vie chrétienne normale », Washman Nee, un livre que je vous conseille, que je pense que chaque chrétien devrait lire au moins une fois dans sa vie. Washman Nee, pour nous expliquer, prend l'image de la gravitation et du principe d'Archimède pour illustrer cela. Je vais vous faire un petit tour de magie, ça va être assez extraordinaire. La gravitation, donc c'est un bouchon de champagne, on a fait une petite fête cette semaine, donc mais vous allez comprendre pourquoi le bouchon de champagne après. La gravitation, c'est un principe qui dit quoi ? Que si je lâche, ça tombe. Ok ? Je peux tenir mon bouchon. Est-ce qu'il va tomber ? Non, il ne va pas tomber. Au bout de 2 heures, peut-être que ça commencera à me faire un peu mal au bras. Au bout d'une nuit, je vais être un peu fatigué. Et à un moment donné, je vais lâcher. À un moment donné, ça va tomber. La gravitation, c'est une loi. C'est une loi. On ne peut rien faire. Par nos propres forces, on ne peut pas combattre la gravitation. On peut tenir un temps, mais à un moment donné, quelles que soient nos forces, quelles que soient nos capacités, on va perdre. Parce que c'est une loi immuable, c'est quelque chose, c'est un principe physique. On ne peut rien faire contre. Tout seul, je ne peux pas lutter contre le péché. Pourquoi ? Parce que c'est une loi spirituelle. Le péché est là. Je ne peux pas lutter moi-même pour m'éviter de tomber. C'est la même chose qu'avec mon bouchon. Je ne peux pas l'empêcher de tomber, à un moment donné, il va tomber, malgré toutes mes forces, malgré tout ce que je peux donner. Malgré toute ma bonne volonté, malgré tout mon désir, je vais pécher, parce que c'est une loi, parce que ma tendance naturelle est portée vers le péché. Malgré tous mes efforts, je n'arriverai pas à mener une vie sans péché par mes propres forces. Seule une autre loi peut lutter contre une loi. Seule une autre loi peut lutter contre une loi. Moi, je ne peux pas lutter contre une loi. Par rapport à la gravité, cette autre loi, c'est le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans l'eau subit une force verticale dirigée du bas vers le haut et opposée au poids du volume de fluide déplacé. Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. En clair, c'est ce qui permet au bateau de naviguer. Mon petit principe d'Archimède. Je mets mon verre. Si je le fais tomber dans l'eau, incroyable. Incroyable, non ? Je peux le pousser ? Ah non, il remonte. Extraordinaire. La loi de la gravitation est contrée par le principe d'Archimède. Deux lois qui se rencontrent. La loi de la gravitation va du haut vers le bas, principe d'Archimède, du bas vers le haut, et rentre en conflit. Et elle permet à mon bouchon de tenir hors de l'eau, de ne pas tomber. Et c'est un peu une image de ce qu'on peut vivre en tant que chrétien. Nous ne pouvons pas lutter par nos propres forces contre la loi du péché, mais Dieu nous donne la solution. Juste que je me retrouve dans mes notes. Mais Dieu nous donne la solution. C'est que ce n'est pas, il ne nous donne pas une série d'exigences ou la bonne recette pour ne pas tomber dans le péché, pour ne pas avoir à lutter. Il nous dit, tu n'as pas à lutter contre la loi du péché, parce que maintenant tu es mon enfant. Tu n'as pas à lutter contre le péché. Tu es délivré du péché. Tu es délivré des exigences de la loi. Il n'y a pas de lutte. Tu ne peux pas lutter. Tu es délivré. Lutter contre le péché, c'est un peu comme essayer de nager avec un bloc de béton accroché au pied. On fait tellement d'efforts pour essayer de garder la tête hors de l'eau qu'on n'avance pas beaucoup. La loi de l'esprit, c'est comme un pédalo. Quand on est dans le pédalo, même si on a un bloc de béton, au pied toujours, on n'a plus d'efforts à faire pour ne pas s'enfoncer. C'est le pédalo qui me fait flotter. Et je n'ai donc plus qu'à pédaler pour aller dans la bonne direction vers Christ, les yeux fixés sur Christ. Je n'ai plus à me soucier de flotter, mais seulement d'avancer. Et ce n'est pas grave si parfois je suis un peu mouillé, parce que j'avance dans la direction. Je n'ai plus à lutter contre le péché, mais à vivre la vie par l'esprit et avancer avec Dieu. Qu'est-ce que ça signifie en pratique pour nous ? Parce que nous avons un rapport renouvelé vis-à-vis de la loi, nous n'allons plus faire les choses par peur des conséquences. Je vais respecter la loi par peur des conséquences. Non. Nous allons faire ce que demande la loi, parce qu'elle nous montre la volonté de Dieu et parce que je sais que Dieu m'aime. Et que si je veux lui montrer mon amour, je vais respecter la loi. Et ça change tout. Je ne vois plus la loi comme une série d'exigences que je dois respecter par crainte d'eux, mais je vois la loi comme la volonté de Dieu que je veux respecter par amour pour lui. C'est un peu comme l'histoire malheureuse d'un couple. Tous les matins, le mari laissait une liste de choses à faire à sa femme à chaque soir. Encore une fois, ce n'est pas Manu, ce n'est pas mon couple. C'est elle qui me laisse une liste de choses. Non, Il revenait et criait son amertume et ses insultes parce que sa femme n'avait pas fait tout ce qu'il y avait sur la liste. Un jour, le mari est décédé. Puis l'épouse s'est remariée. Le mariage fut cette fois heureux, rempli d'amour et de paix. Le mari était un homme très doux, aimant. Sa femme s'est épanouie à ses côtés. Et puis un jour, elle a découvert au fond d'un tiroir une ancienne liste. C'était l'une de ces anciennes listes de tâches de son premier mari. Et à son grand étonnement, en la lisant, elle s'est rendue compte qu'elle faisait bien plus de choses à ce moment-là que tout ce que c'est la liste de choses que son ancien mari lui exigeait d'elle. Elle faisait plus. Dieu est ce second mari bienveillant qui nous aime et sans que nous nous rendions compte, par amour pour lui, nous allons faire beaucoup plus de choses dans sa volonté plutôt que si nous voyons la loi comme un respect, comme la crainte d'eux. C'est l'amour qui nous guide. Et par l'amour, par le renouvellement de l'esprit, nous ferons beaucoup plus de choses dans sa volonté que si nous vivons dans la crainte d'eux. Une dernière application par rapport à mon besoin fondamental de Dieu. À travers la loi, l'objectif de Dieu est celui d'amener le chrétien au désespoir de lui-même, être désespéré de toi-même et de moi-même. Désespéré quant à sa capacité de faire le bien. Pourquoi ? Pour se tourner radicalement vers Christ. Watchman Nee encore lui raconte. Un frère qui cherchait à arriver à la victoire en luttant me fit un jour cette remarque. « Je ne sais pas pourquoi je suis si faible. » Je répondis alors, « Ce qu'il y a, c'est que vous êtes assez faible pour ne pas accomplir la volonté de Dieu, mais vous n'êtes pas assez faible pour ne pas essayer de le faire. Lorsque vous serez réduit à une faiblesse extrême et que vous serez persuadé de votre incapacité absolue, alors Dieu fera tout. Un homme qui se noie ne peut être sauvé que lorsqu'il est complètement épuisé et qu'il ne peut plus faire le moindre effort pour se sauver lui-même. Ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à la fin de nous-mêmes que Dieu peut enfin prendre le relais. Nous avons besoin, toujours plus en tant que chrétiens, et moi le premier, de réaliser notre faiblesse pour pouvoir nous tourner radicalement vers Christ et pour qu'il agisse. Trop souvent dans ma vie, je le constate, je crois que j'ai des choses à prouver à Dieu. J'essaie de faire de mon mieux. Je veux prouver des choses à Dieu. Et quand je réfléchis à cette idée, je me dis, mais c'est d'un ridicule, prouver quelque chose à Dieu. J'ai rien à lui prouver, qu'est-ce que vous voulez que je lui prouve ? Rien. Non, je dois me reconnaître ma faiblesse, lui tendre la main pour qu'il puisse la saisir et pour qu'il puisse faire son œuvre dans ma vie. Ma lourde responsabilité face au péché, mon rapport renouvelé à la loi, mon besoin fondamental de Dieu, que ça puisse être marqué dans nos esprits, dans nos cœurs toute cette semaine. Amen.